Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape s'est bien reposé pendant la nuit, son état clinique est stable et il poursuit le processus diagnostique et thérapeutique prescrit par le corps médical. C'est cela qu'a fait savoir le directeur de la salle de presse du Saint-Siège dans la soirée du dimanche 16 février, François, qui est hospitalisé à la polyclinique romaine Gemelli depuis vendredi 14 février. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Bénin où le nouveau nonce apostolique au Bénin au Togo a célébré sa première messe publique. Dans l'actualité sociale et politique africaine, nous reviendrons sur l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine au cours du sommet annuel des chefs d'État africains qui a lieu à Addis Abeba. Nous conclurons cette édition en écoutant les témoignages d'évêques et prêtres présents à la messe des funérailles de Monseigneur Joseph Ballon, prêtre togolais et premier responsable africain de la section Français et Afrique de Radio Vatican. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendekere.
Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a partagé dans la soirée de dimanche 16 février des nouvelles de l'état de santé du pape, hospitalisé depuis vendredi 14 février à la polyclinique romaine Gemelli. Le pape François s'est bien reposé pendant la nuit. Son état clinique est stable et il poursuit le processus diagnostique et thérapeutique prescrit par le corps médical, a affirmé Matteo Bruni, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Le pape, comme annoncé la veille, n'a pas présidé la récitation de l'Angélus dominical pour faciliter la récupération et a suivi les prescriptions du personnel médical lui conseillant un repos absolu. Le souverain pontife continue donc de suivre le traitement prescrit par les médecins. Ce dimanche matin, il a reçu l'Eucharistie et a suivi la Sainte Messe à la télévision. L'après-midi, il a alterné lecture et repos, a déclaré Matteo Bruni. Christ, source d'espérance, de réconciliation et de paix, un appel à la prière et au jeûne. C'est l'intitulé du message du comité permanent du CHEAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, réuni à Accra au Ghana du 11 au 14 février pour leur première réunion ordinaire annuelle. Les évêques expriment leurs préoccupations et leur tristesse en raison des conflits persistants sur le continent. Plus de détails avec Stanislas Kambashi.
Se tenir ensemble dans la prière pour ceux qui souffrent et invoquer l'intervention des dieux pour la paix et la guérison, c'est l'appel des évêques africains et malgaches suite au constat de la persistance des conflits sur les continents. Les prélats regrettent que les riches ressources minières de l'Afrique, qui devraient être une source de prospérité, soient au contraire devenues une cause des conflits sur les continents, dénonçant que les désirs de contrôler et de s'approprier ces ressources poussent certaines puissances et multinationales à financer des factions armées dans plusieurs pays africains, alimentant ainsi la violence, les déplacements forcés et l'instabilité. Quant à ceux, les évêques réitèrent les paroles du pape François qui, dans son discours de janvier 2023 à Kinshasa en RD Congo, avait demandé à ceux qui étouffent l'Afrique d'en retirer leurs mains. « Ce n'est ni une mine à exploiter, ni une terre à dépouiller », disait le pape. Tout en exprimant leur proximité envers tous ceux qui sont en deuil et dans la souffrance, les prélats appellent les fidèles à être des pèlerins de l'espérance. Même dans les heures les plus sombres, disent-ils, l'espérance ne doit jamais s'éteindre. Enfin, les évêques invitent chaque diocèse, paroisse et communauté religieuse en Afrique à s'unir dans un tridôme des prières et des jeûnes selon leurs coutumes locales et leurs moyens du 3 au 5 mars 2025.
Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi, nouveau nonce apostolique au Bénin et Togo, a célébré sa première messe publique au Bénin jeudi. C'était en la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou, en présence de Monseigneur Roger Ungbeji, archevêque de Cotonou et président de la Conférence épiscopale du Bénin, de Monseigneur Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou et d'une foule de prêtres religieux, religieuses et laïcs. Les détails avec notre correspondant au Bénin, Juste en l'annonce.
C'est une foule en liesse qui a accueilli à Cotonou Monseigneur Ruben Dario Mainardi, le nouveau représentant du pape François au Bénin et au Togo. Avant l'ouverture de cette première messe publique du prélat au Bénin, Monseigneur Roger Ngbeji lui a adressé ses mots d'accueil au nom de l'église diocésaine de Cotonou.
Toute la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Cotonou vous accueille avec joie et à bras ouverts, en votre qualité de représentant du pape envoyé chez nous pour faire route avec nous et être au milieu de nous, le signe visible de la proximité et de la sollicitude du Saint-Père. Soyez le bienvenu au Bénin et surtout dans l'archidiocèse de Cotonou qui est votre lieu de résidence ordinaire.
Au cours de son homélie, Monseigneur Mainardi a insisté sur la nécessité de la poursuite de l'œuvre d'évangélisation dans le pays. S'il estime que l'Église au Bénin a fait un parcours formidable dans ses plus de 150 ans d'histoire, il précise néanmoins que, je cite, « la vraie fierté ne devrait pas provenir du travail accompli, mais de la soif incessante et incommensurable de transmettre aux autres l'amour du Christ qui brûle dans notre sang. » Cotonou, juste un nom pour Radio Vatican.
Si nous en sommes venus à manquer la paix, c'est parce que nous n'étions pas réconciliés avec et entre nous, mais aussi avec le Seigneur. C'est la déclaration de Monseigneur Ernest Ngboko, archevêque de Mbandaka Bikoro, dimanche 16 février, après la messe qu'il a présidée dans la paroisse Saint-Joseph de Bamanya, où il était en visite pastorale. Face à la guerre qui sévit dans l'est du pays, Monseigneur Ngboko appelle à la prière pour la paix, paix pour laquelle il célèbre une messe jeudi prochain. Jean-Baptiste Malengue.
Le Seigneur apporte au peuple un message de consolation et d'espérance. L'archevêque de Mbandaka Bikoro l'a déclaré le dimanche 16 février au cours de la messe qu'il a présidée dans la sous-paroisse Boyeka, dans la paroisse Saint-Joseph de Bamania. Monseigneur Ernest Ngboko invite les fidèles de la ville de Mbandaka et toutes les personnes de bonne volonté à la messe pour la paix le jeudi après-midi dans l'église paroissiale Saint-Paul de Mbandaka.
Dans notre contexte aujourd'hui, nous avons voulu montrer que le Seigneur est toujours à nos chevets. Il est là et particulièrement dans la situation que notre pays est en train de traverser. Et le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur nous adresse également un message de consolation. Il voit les désastres dans lesquels le pays est plongé. Nous devons mettre notre espoir en lui, en lui. Et cette année également, nous en profitons pour rendre grâce à Dieu, parce que notre Saint-Père, le pape François, il nous a donné l'opportunité de célébrer donc l'espérance. Nous devons mettre le Seigneur au centre de la demande de paix. Et c'est ainsi que, comme je l'ai dit également, le jeudi, donc le prochain, c'est jeudi-ci, donc le 20 donc février, à la paroisse Saint-Paul de Mbandaka 3, il y aura une grande célébration au cours de laquelle nous allons implorer donc la paix, faire intervenir le Seigneur. Mais aussi nous allons demander pour que cette paix commence d'abord dans nos cœurs. Si vraiment nous arrivons à manquer cette paix, tout justement parce que nous ne sommes pas réconciliés avec nous et nous ne sommes pas réconciliés avec le Seigneur non plus.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociopolitique sur le continent. Mahmoud Ali Youssef, désormais à la tête de la Commission de l'Union africaine. L'ancien ministre des Affaires étrangères djiboutien, qui n'était pourtant pas donné favori de ces élections, a été élu par les chefs d'État africains réunis ce week-end à Addis Abeba pour leur sommet annuel. Augustine Passili, qui a suivi ce scrutin depuis le siège de l'instance panafricaine, nous fait un point sur l'événement.
Dès le troisième tour, le candidat malgache est éliminé. Les voix se reportent alors sur le ministre des Affaires étrangères djiboutien, Mahmoud Ali Youssef. L'ancien premier ministre kényan, Raila Odinga, était pourtant donné favori après avoir mené une campagne en grande pompe. Il faudra finalement 7 tours de scrutin pour élire Youssef. Ce diplomate de carrière a lui mené une campagne stratégique. Il maîtrise les 3 langues officielles de l'Union africaine, le français, l'anglais et l'arabe, ce qui lui a permis de s'adresser à des groupes de pays plutôt qu'à des nations individuelles comme son principal concurrent. Sa religion musulmane le rapproche en outre des 10 États africains membres de l'Organisation de la coopération islamique et des 26 pays qui font partie de la Ligue arabe. Le candidat kényan était trop politisé, trop concentré sur les enjeux nationaux et trop vieux aussi. Beaucoup de chefs d'État ont estimé que Youssouf serait plus bénéfique pour l'Union africaine, m'a expliqué un diplomate qui a assisté au scrutin. Pour l'épauler, le Djiboutien pourra compter sur la vice-présidente algérienne Selma Malika Haddadi. Ensemble, ils devront redonner son efficacité à une instance qui a pour l'heure échoué à mettre fin aux crises traversant le continent, en particulier la guerre au Soudan et les combats dans l'est de la RDC. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
L'actualité se poursuit en République démocratique du Congo. Les M23 ont pris le contrôle d'une deuxième ville d'importance capitale à l'est de la RDC. Bukavu, capitale du Sud Kivu, ville d'environ 1 million d'habitants, est tombée sans résistance, l'armée congolaise l'ayant abandonnée à la chute de l'aéroport de Kavumu le vendredi dernier. C'est dans la matinée du dimanche que les militaires du M23 sont entrés à Bukavu. Augustin Mosangé nous relate le récit de cette prise de Bukavu.
Bukavu, capitale du Sud Kivu, est tombée sans résistance 48 heures après la chute du dernier verrou des FRDC à l'aéroport de Kavumu. Le matin de ce dimanche, des colonnes des militaires du M23 sont entrées dans la ville de Bukavu sous les acclamations de certains curieux. À la tête de cette force, le numéro 2 de l'armée de la rébellion, Bernard Maeshe Biamungu, prononce quelques mots à la place de l'indépendance, le plus grand carrefour au centre de cette ville. Depuis la chute de Kavumu, le gouverneur du site Kivu et toute son administration avaient quitté la ville. L'armée, ses partenaires burundais et la police aussi. La chute de Bukavu donne le contrôle total du lac Kivu au M23 maintenant. À Bukavu, les nouveaux occupants de la ville appellent la population à une collaboration en dénonçant le cachet des ennemis. La journée de samedi a été consacrée à des scènes d'épillage dans la ville de Bukavu. Les badauds et enfants de la rue ont terrorisé la population avec les armes abandonnées par-ci par-là. Goma, Augustin Mosangé pour Radio Vatican.
Crise humanitaire au Soudan. L'ONU a lancé lundi un appel de 6 milliards de dollars afin de fournir cette année une aide cruciale à cette population ravagée depuis avril 2023 par une guerre civile, mais aussi aux millions de Soudanais ayant fui leur pays. L'objectif est de fournir une assistance à près de 26 millions de personnes au total, ont souligné l'Agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, et l'Agence chargée des réfugiés, le HCR, dans un appel commun. Les agences des Nations Unies ont souligné que depuis les débuts de la guerre civile, quelques 12 millions de personnes ont été déplacées, dont 3,5 millions ont fui le Soudan. Dans le même temps, près des deux tiers de la population ont besoin d'une aide d'urgence, des régions entières étant confrontées à des conditions de famine. Décédé le 1er février à Rome à l'âge de 76 ans, Mgr Joseph Ballan, prêtre togolais et premier responsable africain de la section Français-Afrique de Radio Vatican, sera inhumé vendredi 21 février à Golgotha, cimetière des prêtres du diocèse de Kara au Togo. Avant les transferts de la dépouille au Togo, une messe de funérailles organisée par le dicastère pour la communication a été célébrée lundi 17 février en l'église Sainte Maria in Traspontina à Rome. Au terme de la célébration, Françoise Niamien a recueilli quelques témoignages d'évêques et prêtres présents.
À cette messe de requiem étaient présents des membres du dicastère pour la communication de Radio Vatican, aussi des cardinaux, évêques, prêtres, religieux et religieuses africains. On y a également noté la présence de représentants de missions diplomatiques africaines accrédités par le Saint-Siège. Le père Janvier Yameogo, prêtre à Burkinabé, est de la direction théologico-pastorale du dicastère pour la communication. Très proche de Mgr Joseph Ballan, il a vécu les derniers instants du défunt. Pour lui, Mgr Ballan a été un homme exceptionnel.
Derrière certaines attitudes qui pouvaient paraître dures, austères, c'est un homme au cœur d'or. C'est un prêtre qui a vraiment vécu et qui a cherché à être toujours proche des gens. tous ceux qui l'ont approché réellement savent qu'il était un ami fidèle, un confident qui respectait beaucoup les gens. Vraiment un homme de foi, un homme de communication qui a toujours accepté la volonté de Dieu, l'amour du prochain. C'était un homme très délicat et un homme qui aimait toujours faire rire. Même dans sa souffrance, il se préoccupait pour sa nièce qui l'assistait. Il se préoccupait davantage pour elle que pour lui-même, tout en sachant qu'il allait mourir. Et il voulait qu'elle le vive dans la joie. Et ça, c'est un dernier témoignage vraiment magnifique qu'il nous laisse. Soyez joyeux, parce qu'au cœur de la souffrance, on garde l'espérance en Dieu.
Toujours de Monseigneur Ballon, le père Yaméogo garde aussi l'amour de son continent.
Il a donné une certaine dimension à l'information sur l'Afrique en insistant sur l'espérance que nous devons avoir, parce que l'Afrique est ce continent d'espérance. Il est docteur en histoire de la Sorbonne et à cause de cela, il était très sensible à certains discours sur l'Afrique. Et comme il l'a dit, toutes les souffrances de l'Afrique, toutes les misères de l'Afrique, il a dit, c'est un chemin de croix pour le salut de toute l'humanité.
Le père Federico Lombardi, directeur des programmes de Radio Vatican de 1990 à 2005 et directeur général de 2005 à 2016, garde de son ancien collaborateur l'image d'un prêtre qui aura servi l'Église et son continent avec amour, dévouement et passion. Il a été une voix de sagesse, de confiance et d'espérance.
J'ai un grand respect pour le père Ballon, vraiment. Il a fait son travail avec continuité, constance, patience, intelligence. Il était un homme très cultivé. Et alors, je pouvais avoir une très grande, une totale confiance en lui sur la guide du programme pour l'Afrique. Il était une voix de sagesse, aussi un regard de confiance, d'espérance sur l'avenir du continent et du monde. Il a vraiment représenté l'Afrique dans la communauté de travail universel qui était Radio Vatican. Et il a, je pense, donné une très grande contribution pour une voix africaine dans ces concerts des voix de l'Église universelle.
De passage à Rome, Mgr Isaac Djog Gaglo, évêque d'Anéo au Togo, a représenté l'épiscopat togolais à cette messe de Requiem. Pour lui, Mgr Ballon constituait le lien entre l'Église Famille de Dieu au Togo et le Saint-Siège.
Je crois que Mgr Ballon fait vraiment un lien entre Rome et le Togo. C'est un prêtre très ouvert, c'est lui qui nous informe sur beaucoup de choses et on a l'impression qu'il est ici à Rome, mais en même temps au Togo. Nous sommes très reconnaissants pour le travail qu'il a réalisé ici à Rome.
Une cinquantaine de prêtres religieux et religieuses togolais vivant à Rome étaient également présents pour rendre hommage à l'un des pères fondateurs de leur fraternité, Père Donatien Agadjo.
Monseigneur Ballon nous a laissé un message fort, c'est le message de l'amour et du travail bien fait. Il disait bien, l'amour est au-dessus de tout. Et à la fin de sa vie, il a essayé de prouver effectivement cela. Il s'est vraiment totalement confié aux personnes qui sont à côté de lui, dans la confiance et dans l'amour, dans le pardon. Je le vois déjà comme dans la félicité éternelle parce que les témoignages que nous avons reçus de lui aux dernières heures, il a demandé à se confesser et après la confession, il était heureux. Donc, par la foi, nous on peut dire qu'il est déjà dans la félicité céleste. Cependant, l'être humain, nous avons toujours le mal qui est inhérent en nous. Eh bien, donc, ma prière serait de demander au Seigneur de fermer les yeux sur ce qui le tâche pour qu'il puisse entrer pleinement dans son royaume éternel.
Mgr Joseph Ballon sera inhumé le vendredi 21 février à Kara, dans son diocèse d'origine au Togo. Puisse le Seigneur l'accueillir dans sa félicité céleste.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguendekere qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.